Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Panorama économique sur Radio Capi. Vous avez pris l'habitude de nous suivre chaque week-end dans cette émission, au cours de laquelle nous commentons l'actualité économique de la semaine. D'abord le sommaire. Une centaine d'hommes d'affaires marocains ont signé le mercredi les accords avec le gouvernement congolais, accords portant essentiellement sur les développements économiques et techniques. Et puis, 15 000 dollars américains par mois, ce montant que génère actuellement la taxe des stationnements et des parkings dans la ville de Kinshasa pourrait atteindre 1 million de dollars américains si la gestion des parkings s'améliorait. C'est le ministre provincial de l'économie qui l'a déclaré au cours d'un atelier qui s'est tenu ici à Kinshasa. Nous parlerons aussi de la relance de la GECAMINE qui était au centre d'une conférence débat à l'UNIKIN. L'administrateur délégué de la GECAMINE s'est entretenu avec les étudiants jeudi sur cette question. Serge Mumbu est l'invité de cette émission. Il est directeur général de Target. C'est un cabinet d'études du marché. Devant le micro, Paul Matindo et François Kadima pour animer ce panorama économique de ce samedi. Bonjour Paul.
Bonjour François, bonjour Serge.
Bonjour.
Panorama économique, le dossier.
Commençons ce panorama économique par la signature de 6 accords mercredi entre les hommes d'affaires marocains arrivés en RDC avec le gouvernement congolais. Ce protocole d'accord porte essentiellement sur les domaines de développement économique et technique. Au cours de cette cérémonie, le ministre marocain de l'Industrie, Commerce et Nouvelles Technologies a indiqué que ces accords renforcent le partenariat économique entre les deux pays. Paul Matindo était sur place.
Il s'agit de protocoles d'accord dans divers domaines, notamment l'agroalimentaire, l'électricité, le transport, les nouvelles technologies de l'information et autres. Par la signature de ces accords, le Royaume de Maroc vient de réaffirmer sa volonté d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec la RDC, a souligné le ministre marocain de l'Industrie, Commerce et Nouvelles Technologies, Abdelkader Amara, qui conduit une délégation d'une centaine d'hommes d'affaires marocains, a ajouté qu'il s'agit également pour les patronats marocains d'explorer les possibilités d'investir en RDC et d'établir des échanges d'informations avec les hommes d'affaires congolais. Abdelkader Amara.
Et le but, donc, c'est de travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs congolais. Donc d'avoir des ateliers, des B2B, qui permettraient donc aux uns et aux autres et de juger donc des opportunités d'affaires.
Pour les hommes d'affaires congolais, cette rencontre est une occasion de découvrir les performances accomplies par le Maroc, notamment dans les secteurs industriels, mais aussi d'avoir des informations nécessaires pour développer leurs propres entreprises. Arsène Guélélé, président exécutif de l'Action pour l'Industrie en Afrique centrale.
Nous pouvons avoir peut-être discuté, mais les autres, ils ont les solutions. Mais comment faire pour pallier ? Donc nous sommes à la recherche des solutions. Il y a des banquiers qui sont là. Donc ils apportent, il y a l'argent, il y a le savoir-faire, il y a la technologie. Donc c'est normal qu'on puisse se mettre ensemble et regarder comment nous pouvons procéder.
Notons que cette rencontre sur le partenariat économique entre les hommes d'affaires marocains et congolais est la deuxième après celle de 2010.
Voilà qui est bien dit, Paul Matindo. Je vous rappelle que notre invité, c'est Serge Mumbu. Il est directeur général de Target. C'est un cabinet d'études du marché.
Oui.
Vous avez suivi notre reportage. Alors, établir un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et le Maroc, comment cela peut-il profiter au pays?
Bon, je pense que cela va beaucoup, est censé profiter parce que il y a des opportunités. Il y a des entreprises qui sont ici, qui pourraient avoir des produits à proposer également aux entreprises marocaines. Il y a des secteurs ici qui sont censés être développé et c'est très intéressant qu'il soit venu ici et j'espère que c'est un exemple à suivre aussi pour que nos entreprises soient également promues par nos dirigeants lorsqu'ils sont en train de voyager. Donc je pense que c'est une très bonne initiative également à suivre. Il y a des opportunités dans beaucoup de secteurs. Je prends l'exemple des secteurs des supermarchés. Hein, c'est un secteur qui est en plein essor. Il y a le secteur des télécoms. Il y a beaucoup de secteurs, en tout cas, qui peuvent être intéressants ici.
Paul,
les entrepreneurs congolais eux-mêmes pensent que ce partenariat va permettre de développer leurs propres entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça peut développer parce que lorsqu'une industrie s'installe, il y a ce qu'on appelle l'effet domino, dans le sens que on peut avoir des fournisseurs. Je prends un cas concret, celui qui a des rames de papier, il peut commencer à fournir des rames de papier à cette nouvelle entreprise marocaine qui vient d'arriver. Celui qui a le nettoyage peut pouvoir offrir. Donc le fait que les entreprises s'installent, ça va faire en sorte que ceux qui ont l'habitude d'offrir des services, même les petites et moyennes entreprises, pourront avoir de nouveaux clients. Et ça fait que leur chiffre d'affaires pourra se développer également.
Alors du Maroc, on peut tirer quelle expérience par rapport au développement économique de la RDC?
Bon, je sais que le Maroc, c'est un pays dans lequel il y a des entreprises qui existent. Vous savez, ce n'est pas un partenariat d'État à État, mais c'est plutôt un partenariat privé-privé. Donc,
ouais.
L'homme d'affaires qui vient, s'il constate qu'il y a des opportunités, il appartient maintenant au gouvernement congolais de voir dans quelle mesure lever certaines barrières pour faciliter les investisseurs. Par exemple, il y a quelque temps, il y a eu le phénomène de guichet unique. Aujourd'hui, pour ouvrir une entreprise, ça prend un peu moins de temps. Rien qu'avec 40 dollars, on a la possibilité d'ouvrir. Donc je pense que si le gouvernement congolais peut faciliter les investissements, ça sera possible que des entrepreneurs marocains, quand il vient ici, il constate qu'il y a une opportunité, il va ouvrir son entreprise. Donc, moi, je ne vois pas ça un développement d'État à État, mais plutôt des partenariats. Un investisseur, il y a une opportunité, on le rassure et il met son argent et il peut se retrouver.
Voilà, nous allons prendre une autre actualité économique de la semaine. Donc, l'atelier sur la gestion des parkings, aménagement et transformation des espaces de la ville de Kinshasa. Paul Matindo.
Oui, François, cet atelier a été organisé en début de semaine par le ministère provincial des Finances, Économie, Commerce et IPMEA. Ce projet vise principalement la création des actes générateurs de recettes de la ville-province de Kinshasa. Jocelyne Moussa-Opondé nous en parle.
La taxe de stationnement et des parkings devrait être l'un des principaux actes générateurs de recettes de la ville de Kinshasa. Selon la cellule financière et fiscale du ministère provincial des Finances, Économie, Commerce et IPMEA, sa première mise en œuvre n'a pas permis à la ville de réaliser des recettes conséquentes. C'est notamment à cause de la mauvaise organisation de la collecte de cette taxe et de la vieillesse des textes légaux l'instituant. 15 000 dollars américains, c'est le montant qu'elle génère mensuellement, alors que ce montant peut facilement atteindre 1 million de dollars. Le ministère provincial des Finances, Économie, Commerce et IPMEA de la ville province de Kinshasa a initié cet atelier afin de revoir les textes légaux et réglementaires relatifs aux taxes des parkings et assimilés, de réfléchir sur la mise en place d'un système efficace de collecte des recettes et de réfléchir également sur l'aménagement des parkings payants modernes en hauteur et en sous-sol. Il faut noter que la ville province de Kinshasa compte au moins 100 000 véhicules.
Serge Mumbu, taxe sur le parking. Le gouvernement provincial de Kinshasa veut réaliser les recettes conséquentes. 1 million de dollars au lieu de 15 000 dollars chaque mois. Est-ce que c'est possible?
Bon, peut-être pas 1 million de dollars, ça c'est difficile pour moi de pouvoir évaluer, mais je sais que ce montant peut être extrêmement élevé parce que nous, tous ceux qui ont des véhicules aujourd'hui, à chaque coin de rue, il y a toujours des personnes qui vous disent « je vais garder pour vous le véhicule ». Il y a parfois des policiers qui sont là, à qui on remet 200 francs, 300 francs ou 500 francs. Mais ça ne part pas dans les caisses de l'État. Donc je sais que ce montant-là peut être vraiment énorme. Mais je me dis que la meilleure manière de pousser les gens à pouvoir payer les taxes et même à payer les impôts, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Il appartient maintenant au gouvernement provincial qui se fixe cette ambition-là de réaliser des choses. Si on peut aménager un espace, et on dit que regardez, avec les 15 000 dollars qu'on a l'habitude de faire pendant 2 ans, regardez, on a pu aménager un espace beaucoup plus sécurisant, ainsi de suite. Ça va pousser, ça va inciter les gens à payer. Donc je pense que le gouvernement provincial doit arriver à démontrer où va l'argent, à quoi cela sert pour que les contribuables soient motivés. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas motivés à payer les impôts, les taxes, parce qu'ils se disent « mais cet argent, ça va où ?» Donc je pense que l'objectif est noble, je pense que ça peut générer énormément de l'argent, mais il appartient aussi à l'État de faire des efforts.
Mais récolter toutes ces recettes,
oui.
Vous avez parlé des véhicules stationnés où on paye 300, 400, 500, récolter toutes ces recettes pour faire 1 million comme objectif que le gouvernement provincial va atteindre.
Bon, si nous avons un exemple, si nous avons 100 000 véhicules pour arriver à 1 million, ça fait 10 dollars. 10 dollars par mois, cela suppose que cela fait 9 000 francs. Et 9 000 francs, cela suppose que si on doit payer 500 francs, cela suppose que la personne, ça c'est un bête calcul, hein, cela suppose que cette personne-là, nous avons à peu près 180 stationnements par mois, plus ou moins pour arriver à ce montant-là de 1 million. Bon, est-ce que 180 stationnements par mois pour un véhicule, c'est réaliste? C'est là où je dis que c'est quand même difficile comme montant. Je pense que peut-être pas 1 million, peut-être on peut parler peut-être de 200 000 ou de même 1 million, ça me paraît quand même élevé, surtout que les gens ne sont pas motivés à payer les impôts.
Mais le gouvernement provincial se veut très rassurant.
Une autre question qui se pose aussi, c'est sur la canalisation de ces recettes, lorsqu'on sait, comme l'a dit Jocelyne, que dans la ville de Kinshasa il y a environ 100 000 véhicules.
Oui. Justement, je dis que la canalisation des recettes. Or, si le gouvernement provincial peut faire une campagne d'information pour expliquer que voilà ce que vous vous donnez, voilà comment est-ce que nous le gérons, voilà quels sont les projets que nous sommes en train de faire. Moi, je pense que ça peut marcher, mais à condition qu'il y ait un maximum d'explications sur l'utilisation et qu'il y ait un investissement sur l'argent qui est en train d'entrer. Ça peut faire un effet domino. Chaque mois, les recettes vont commencer à augmenter.
Notre dernier sujet de la semaine, c'est cette conférence débat autour de la relance de la générale de carrière et de mine, Gécamine, Paul Matindo.
L'administrateur délégué de la Gécamine l'a animé jeudi à l'université de Kinshasa. À l'issue de ce débat organisé par le magazine Géopolis, Kalej Kand, ADG de la Gécamine, s'est entretenu avec Radio Capi sur cette question.
Bonjour Monsieur Kalej Kanda.
Bonjour Monsieur.
Vous êtes administrateur délégué de la Gécamine.
Exact.
On peut savoir aujourd'hui où en est-on avec la Gécamine?
La Gécamine venait de lancer un plan de relance de ses activités il y a 2 ans, qui était basé sur un constat fait après la transformation de l'entreprise en société commerciale. Il a été préconisé un plan stratégique en 6 axes. Le premier des axes visait justement la reprise du programme de recherche et d'exploration et de découverture. Le deuxième axe visait la réhabilitation de l'outil de production, mais surtout la modernisation des équipements. Et le troisième axe concernait les activités connexes à l'activité minière qu'il fallait revaloriser. Le quatrième axe parlait de l'amélioration de la gestion des partenariats. Et l'axe suivant concernait la restructuration du passif, donc la gestion de la dette. Et le dernier axe concernait un programme social par rapport à la réduction des effectifs.
À l'époque, la Gécamine produisait du cobalt, du fer, du manganèse et surtout du cuivre. Alors aujourd'hui, que reste-t-il en termes de production?
La Gécamine produit toujours du cuivre, du cobalt et du zinc et constitue encore à détenir beaucoup de concessions de manganèse, de charbon et d'autres terres rares et métaux accompagnateurs. Mais sa production actuelle est concentrée sur le cuivre et le cobalt, accessoirement le zinc. Et la production est en accroissement sur 5 ans. Il a été prévu que la production allait être augmentée de 20 000 environ en 2010 et en 2011 à 35 000 tonnes en 2012. Et par rapport à cet objectif, la production de 2012 a atteint 36 000 tonnes, donc 54% par rapport aux prévisions. Les prévisions de 2013 situent la production à 50 000 tonnes et c'est en cours de réalisation, donc nous attendons la fin de l'année, mais nous sommes sur la trace pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, nous avons environ 25 sociétés en partenariat avec plusieurs privés venus de tous les horizons. Et de ces partenariats, il y en a 9 qui sont en phase de production et les autres sont soit en phase de construction, soit en phase d'études de faisabilité.
Merci beaucoup, monsieur le DG.
C'est moi qui vous remercie.
Kalej Kand préconise 6 axes. Pour la Gécamine, donc, Kalej parle d'une production qui a augmenté, 36 000 tonnes produites en 2012. Et pour 2013, la Gécamine veut atteindre 50 000 tonnes.
En tout cas, moi, je pense que cela est possible parce qu'il a dit un élément très important. Il a parlé du partenariat avec les privés. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré que l'État congolais n'a pas les moyens de pouvoir s'investir à fond pour revaloriser la Gécamine. Voilà pourquoi on a dû signer plusieurs partenariats. Je pense qu'avec les partenaires, c'est possible de pouvoir augmenter parce que celui qui met son argent, quelque part, il veut se retrouver financièrement. Et comme il dit qu'il y en a déjà 9 qui sont en phase de production et les 16 autres qui restent sont en phase de faisabilité, je pense qu'à la longue, ce partenariat-là peut beaucoup aider la GKMI. Donc je me dis que c'est possible.
Mais ce n'est pas le premier partenariat que la GKMI a avec des sociétés étrangères.
Il appartient maintenant aux différents acteurs. Je prends le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, mais également le gouvernement congolais, la Cour des comptes notamment, de veiller sur le grain, de s'assurer effectivement que ces partenariats-là arrivent à apporter les résultats. Donc si chacun, en ce qui le concerne, le rôle du responsable de la GKMI, c'est d'attirer des investisseurs, d'attirer des partenaires. Maintenant, il appartient maintenant à l'État qui a aussi des actions là-bas de voir est-ce que ses intérêts sont pris en compte ou pas. Donc si chacun joue le rôle, je pense que le partenariat sera gagnant-gagnant. Tout le monde pourra trouver son compte parce que même l'État, en termes de recettes, pourra gagner si la GKMI arrive à générer beaucoup de revenus.
Mais dans les 6 axes pour relancer la GKMI, l'ADG préconise, entre autres, la modernisation de la GKMI, parce que vous nous parlez du partenariat. Mais sur l'autre option, là, si ce n'est pas fait, vous pensez que ça va être possible de, par le partenariat, relancer une GKMI qui doit être modernisée?
Oui, mais justement, il appartient maintenant aux responsables de la GKMI de définir les axes de partenariat. Je peux avoir aujourd'hui un partenaire qui vient pour moderniser mes équipements. Par rapport à mon plan d'investissement, je sais que j'ai besoin d'une grue, j'ai besoin de ceci, cela. J'insiste auprès, j'essaie de vendre cette idée-là auprès du partenaire. Donc, les éléments que l'on a pu développer, justement, les partenaires privés peuvent arriver à intervenir sur chacun de ces axes. Quitte à la GKMI maintenant d'arriver à expliquer ce que ce partenaire-là va gagner. Si moi, par exemple, je dois investir 100 millions de dollars pour vous amener un bon matériel, en retour, qu'est-ce que moi je vais gagner?
Tout à fait.
Si, par exemple, je dois chercher un cabinet, moi je suis un cabinet étranger, je dois venir vous aider pour refaire les job descriptions pour pouvoir vous aider à recruter un personnel qui est compétent, en retour, qu'est-ce que moi je vais gagner? Donc c'est à la GKMI de développer des partenariats gagnant-gagnant pour que chacun trouve son intérêt. Et n'oubliez pas que en Europe, il y a la crise. Et il y a des entrepreneurs, des entreprises européennes qui estiment que l'Afrique est le vivier de la croissance mondiale pour les années à venir. Donc il appartient maintenant à la GKMI, au gouvernement congolais, de savoir comment vendre l'image du Congo, comment vendre l'image de la GKMI, comment arriver à convaincre les différents partenaires que si vous mettez de l'argent dans la GKMI, vous allez gagner dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ça c'est une stratégie que le gouvernement et la GKMI devraient développer.
Wait and see.
Ok, merci.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En bref, en parlant de la faible activité économique qui s'observe dans le territoire de Lusambo, nous sommes au Kasaï oriental, alors que des tonnes de marchandises en provenance de Kinshasa transitent par les ports de Lusambo avant d'atteindre Mbujimayi. Les commerçants de Lusambo sont obligés de suivre cette marchandise en Mbujimayi pour alimenter le marché local.
Au sud Kivu, les petits commerçants ont déclenché une grève lundi à travers la cité d'Uvira. Les boutiques, magasins, pharmacies et quincailleries sont restées fermées toute la journée. Et plusieurs dizaines de petits commerçants ont envahi le bureau des autorités territoriales. Ils désapprouvent le mécanisme de recouvrement de la taxe assurance incendie mise en place par la SONAS. Ils souhaitent que cette taxe soit revue à la baisse.
La Fédération des entreprises du Congo Antenne de Boma, dans le Bas-Congo, a organisé mercredi une matinée fiscale dans cette ville portuaire située à 120 km à l'ouest de Matadi. Le but de cette rencontre, sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de payer certaines taxes de l'État. Tous les commerçants de ce coin du Bas-Congo ainsi que les différentes couches de la population ont pris part à cette rencontre. C'est le directeur provincial de la Direction générale des impôts du Bas-Congo qui était l'orateur principal.
À Nitouri, la société pétrolière Total menace de suspendre ses activités de prospection prévues pour décembre prochain au bloc 3 du Graben Albertine à cause de l'insécurité qui règne dans la région du Détsi. Cette région située à plus de 60 km au sud-est de Bounia et sous contrôle des miliciens FRPI de Cobra Matata. Total demande au gouvernement congolais de mettre fin à ce problème de sécurité. Le responsable de ce projet s'est exprimé ce matin lors d'une rencontre avec les représentants des communautés locales. Bientôt, un guichet unique informatisé sera ouvert à la direction de recettes de la province orientale. Son directeur adjoint l'a annoncé hier au cours d'un entretien avec l'autorité du district. Ceci rentre dans le cadre de la lutte contre la fraude de recettes du trésor public.
Voilà, monsieur Serge Mumbu, un commentaire sur l'une ou l'autre actualité de la semaine.
Bon, moi, c'est plus le phénomène de l'accroissement des recettes. Je pense que notre pays a terriblement besoin d'argent et je pense qu'il y a une grande masse qui existe encore dans le secteur informel et tout ce qu'il y a comme initiative dans le sens de donner à l'État congolais les moyens de pouvoir faire sa politique, ça m'intéresse toujours. Hein. J'ai vu l'actualité au niveau de la FEC Boma.
Ouais, sur la matinée fiscale.
Sur la matinée fiscale. Même ici à Kinshasa, nous assistons aussi dans le cadre de la FEC aussi à ce genre d'activité. Je pense que c'est important que l'État arrive à expliquer aux entreprises qu'elles ont intérêt à payer les taxes pour donner à l'État des moyens, mais en même temps les entreprises aussi ont l'opportunité de demander aussi à l'État des facilités, de demander aussi à l'État des garanties et surtout aussi à éviter des tracasseries. Parce que tant qu'il y aura des tracasseries, c'est quand même difficile qu'en ce moment-là, vous avez 3-4 missions en même temps qui viennent réclamer des choses. Vous voyez que c'est quand même difficile. Donc d'un côté, l'État demande qu'on puisse l'aider à maximiser les recettes, mais de l'autre côté aussi, il faudrait que l'État aussi aide les bons contribuables à travers des facilités également.
Panorama économique, reportage.
Parlons de la journée nationale du poisson célébrée le 24 juin dernier. Et il faut dire que le commerce de cette denrée devient de plus en plus difficile dans la ville de Kinshasa. D'après le constat de Radio Capi, les vendeurs de poissons frais déclarent que la vente a sensiblement baissé parce que le client préfère les chinchas aux poissons frais. Paul Matiendo, tu as fait ces constats dans un marché de poissons à Kinshasa.
Au petit marché d'Indolo Libongo, on y trouve des poissons de plusieurs catégories encore en vie dans des bassins remplis d'eau. Les prix de vente varient de 1000 à 10 000 francs congolais, voire 20 000 francs congolais selon la qualité. Pour les vendeurs de ces produits trouvés sur place, qui pour la plupart sont des femmes, la vente journalière a sensiblement baissé. Il y a quelques années, cette vente pouvait s'estimer à une valeur de 50 à 100 dollars, ce qui n'est pas le cas ces derniers jours. Témoignage.
Je souffre ma casse.
Ces femmes affirment que les clients préfèrent acheter le poisson surgelé vu le prix qui est à la portée de toutes les bourses. 3000 francs congolais le kilogramme. Conséquence, les poissons frais pourrissent sans être écoulés. Pour relancer le commerce de poissons frais, ces revendeuses estiment que l'État devrait payer un salaire décent aux agents et fonctionnaires du secteur public. Au même titre que ce commerce qui tient difficilement dans ces petits marchés, la date dédiée aux pêcheurs en RDC tient aussi difficilement dans la mémoire de ces vendeuses.
Voilà, monsieur Serge, vous avez suivi ces reportages. Vous avez un commentaire à placer ?
Bon, en fait, moi, le commentaire que j'aimerais placer, c'est pas que j'aimerais quand même demander aux vendeuses. C'est vrai que dans le passé, ceux qui avaient besoin de poissons venaient vers elle pour pouvoir acheter. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec les emplois du temps qui sont quand même compliqués, ce serait intéressant de voir dans quelle mesure amener plutôt les poissons vers les personnes. Si les chinchards sont beaucoup vendus, c'est parce que dans chaque bouteille, dans chaque coin de rue, dans chaque boutique, on a la possibilité d'avoir ça. Or, la distribution ne suit pas. Celui qui est à Bandal doit aller à Ndolo pour chercher du poisson frais. Donc, ce qui fait que l'effort qui doit maintenant être fait, c'est voir peut-être dans quelle mesure, comment commencer à intéresser, par exemple, les personnes des supermarchés pour pouvoir les aider à pouvoir écouler la main d'œuvre.
Mais monsieur Serge, il y a l'industrie de la pêche qui ne tourne pas, parce que les chinchards, c'est bien congelé, vous le savez. Oui. Mais les poissons, comment on les appelle, poissons frais.
Oui.
Vous savez, les dames là, elles vendent ça. Et c'est pas bien, bien protégé. Vous ne pensez pas que l'industrie du poisson doit peut-être être beaucoup plus, doit prendre la place pour permettre à ces femmes qui se plaignent de bien protéger les poissons et les vendre, les couler vite?
Oui, justement, je pense que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure là. C'est-à-dire que dans le cadre du plan d'investissement, dans le plan de croissance économique de la ville de Kinshasa et même du pays, ce sont des données à intégrer. C'est-à-dire que il y a un besoin, il y a des personnes qui aimeraient bien manger du poisson frais. N'oubliez pas que aujourd'hui, le poisson est recommandé pour la santé. Ceux qui ont des problèmes de cholestérol et autres, on leur demande toujours de consommer du poisson et c'est du poisson frais.
Tout à fait.
Donc le besoin est là. Mais le problème maintenant, c'est que ceux qui sont dans le besoin n'ont pas toujours le temps de venir à Ndolo, de venir là où on achète. C'est là où je dis qu'on peut voir comment intéresser des investisseurs intéressés, de sorte qu'il y a des gens qui en achètent cette production-là et on essaie de voir comment on peut l'écouler ailleurs, là où les gens qui ont ce besoin-là. Je reviens au supermarché. Si on peut faire en sorte que tous les supermarchés qui sont connus, qu'on puisse pouvoir vendre également du poisson frais, moi je pense que les ventes pourront quand même se développer.
Oui, Serge Mumbu, je crois qu'on va terminer par là. Nous avons dans ces studios votre dernière publication qui porte sur l'indice des consommations de produits à Kinshasa, vague de mai 2013. De quoi s'agit-il exactement?
Bon, nous avons produit ce document parce que on voulait donner un regard global sur ce que le Congolais ou le Kinois de façon générale consomme. Et vous allez voir que nous avons des statistiques en termes de taux de consommation des différents produits, notamment le savon, le lait de beauté, le téléphone mobile, ainsi de suite. C'est-à-dire ça donne un regard global sur le taux de consommation, mais également sur les publics. Parce que vous allez voir dans cette publication qu'il y a des produits qui sont de consommation féminine, et il y a des produits qui sont masculins, il y a des produits qui sont liés à l'activité, par exemple les costumes, les tailleurs. Il y a également des produits qui sont liés à l'endroit où les personnes habitent. Par exemple, vous allez voir que dans la commune de Tchangou, par exemple, c'est la consommation des produits comme les produits des décodeurs. C'est très faible là-bas par rapport, par exemple, à la commune de Lukunga. Donc, ça donne vraiment une vue globale de la consommation.
Mais nous voyons ces publications sur Facebook, vous le faites. Comment ça se passe? Vous avez quand même les gens qui consultent et qui vous disent que ça se passe bien?
Bon, en fait, nous l'avons fait également sur Facebook parce que nous avons estimé que c'est important que ce canal-là, que les personnes soient également intéressées à connaître ce que nous sommes en train de faire.
Voilà! C'est la fin de ce panorama économique de ce samedi. Nous étions dans ce studio, donc François Kadima, à côté de Paul Matendo pour commenter l'actualité de la semaine. Également Serge Mumbu, à qui nous allons dire merci, parce qu'il a accepté d'être avec nous dans ce panorama économique. On va se retrouver le prochain week-end. Merci.
Merci beaucoup.